Vampire, au pluriel, de Hongrie. Un soldat hongrois étant logé chez un paysan de la frontière et mangeant un jour avec lui, fit entrer un inconnu qui se mit à table à côté d'eux. Le paysan et sa famille parurent fort effrayés de cette visite, et le soldat, ignorant ce que cela voulait dire, ne savait que juger de l'effroi de ces bonnes gens. Mais le lendemain, le maître de la maison ayant été trouvé mort dans son lit, le soldat apprit que c'était le père de son hôte, mort et enterré depuis 10 ans, qui était venu s'asseoir à table à côté de son fils et qui lui avait ainsi annoncé et causé la mort. Le militaire informa son régiment de cette aventure. Les officiers généraux envoyèrent un capitaine, un chirurgien, un auditeur et quelques officiers pour vérifier le fait. Les gens de la maison et les habitants du village déposèrent tous que le père du paysan était revenu causer la mort de son fils et que tout ce que le soldat avait vu et raconté était exactement vrai. En conséquence, on fit déterrer le corps du spectre. On le trouva dans l'état d'un homme qui vient d'expirer, ayant le sang encore chaud. On lui fit couper la tête et on le remit dans son tombeau. Après cette première expédition, on informa les officiers qu'un autre homme, mort depuis plus de 30 ans, avait l'habitude de revenir, qu'il s'était déjà montré 3 fois dans sa maison à l'heure des repas, que la première fois il avait sucé au cou son propre frère et lui avait tiré beaucoup de sang, qu'à la seconde fois il en avait fait autant à un de ses fils, qu'un valet avait été traité de même à la 3e fois et que ces 3 personnes en étaient mortes. Ce revenant dénaturé fut déterré à son tour. On le trouva aussi plein de sang que le premier vampire. On lui enfonça un grand clou dans la tête et on le recouvrit de terre. La commission croyait en être quitte lorsque de tous côtés il s'éleva des plaintes contre un 3e vampire qui, mort depuis 16 ans, avait tué et dévoré 2 de ses fils. Ce 3e vampire fut brûlé comme le plus coupable. Après ces exécutions, les officiers laissèrent le village entièrement rassuré contre les revenants qui buvaient le sang de leurs enfants et de leurs amis. Histoire d'un mari assassiné qui revient après sa mort demander vengeance. Monsieur de la Courtinière, gentilhomme breton, employait la plus grande partie de son temps à chasser dans ses bois et à visiter ses amis. Il reçut un jour dans son château plusieurs seigneurs, des voisins ou ses parents. Il les traita fort bien pendant 3 ou 4 jours. Quand cette compagnie fut retirée, il y eut entre monsieur de la Courtinière et sa femme une petite querelle parce qu'il trouvait qu'elle n'avait pas assez fait à ses bons visages, à ses amis. Toutefois, il lui fit ses remontrances avec des paroles douces et honnêtes qui n'auraient pas dû l'irriter. Mais cette dame, étant d'une humeur hautaine, ne répondit rien et résolut intérieurement de se venger. Monsieur de la Courtinière se coucha ce soir-là 2 heures plus tôt qu'à l'ordinaire parce qu'il était très fatigué. Il s'endormit profondément. L'heure où la dame avait habitude de se coucher étant venue, elle remarqua que son mari était plongé dans un sommeil très profond. Elle pensa que le moment était favorable à la vengeance qu'elle méditait, tant de la querelle qu'il venait de lui faire que peut-être de quelque autre ancienne inimitié. Elle fit tous ses efforts pour séduire un domestique de la maison et une servante, qu'elle savait être l'un et l'autre assez faciles à corrompre, moyennant de bonnes récompenses. Après avoir tiré d'eux par des protestations et des serments horribles l'assurance qu'ils ne déclareraient rien, elle leur annonça ses coupables intentions. Et pour les y faire plutôt condescendre, elle donna à chacun la somme de 600 francs qu'ils acceptèrent. Cela fait, ils entrèrent tous 3, la dame la première, dans la chambre où le mari était couché, et comme tout était endormi dans la maison, ils égorgèrent leurs victimes sans être entendus. Ils portèrent le corps dans l'un des celliers du château, où ils firent une fosse dans laquelle ils l'enterrèrent. Et pour éviter qu'on ne pût tirer d'indices de la terre fraîchement remuée, ils placèrent sur la fosse un tonneau plein de chair de porc salé. Après cela, chacun s'alla coucher. Le jour venu, les autres domestiques, ne voyant pas leur maître, se demandaient les uns aux autres s'il était malade. La dame leur dit qu'un de ses amis était venu le chercher la nuit précédente et l'avait emmené précipitamment pour aller séparer les gentilshommes du voisinage qui étaient sur le point de se battre. Ce subterfuge fut bon pour un temps, mais au bout de 15 jours, comme M. de la Courtinière ne paraissait point, on commença à devenir inquiet. Sa veuve fit répondre le bruit qu'elle avait eu avis que son mari, passant par un bois, avait fait rencontre de voleurs qui l'avaient assassiné. En même temps, elle se couvrit de vêtements de deuil, fit des lamentations dissimulées et commanda qu'on fît dans les paroisses dont il avait été seigneur des services et des prières pour le repos de l'âme du défunt. Tous ses parents et ses voisins vinrent la consoler, et elle joua si bien la douleur que jamais personne n'eût découvert son crime si le ciel n'eût permis qu'il fût dévoilé. Le défunt avait un frère qui venait quelquefois voir sa belle-sœur, tant pour la distraire de ses prétendus chagrins que pour veiller à ses affaires et aux intérêts des 4 enfants mineurs du défunt. Un jour qu'il se promenait sur les 4 à 5 heures de l'après-midi dans le jardin du château, comme il contemplait un parterre orné de belles tulipes et autres fleurs rares que son frère avait beaucoup aimées, il lui prit tout à coup un saignement de nez, ce qui l'étonna fort, n'ayant jamais éprouvé cet accident. En ce moment, il songeait fortement à son frère. Il lui sembla qu'il voyait l'ombre de M. de la Courtinière qui lui faisait signe de la main et semblait l'appeler. Il ne s'effraya point, il suivit le spectre jusqu'au cellier de la maison et le vit disparaître justement sur la fosse où il avait été enterré. Ce prodige lui donna quelques soupçons sur le forfait commis. Pour s'en assurer, il alla raconter ce qu'il venait de voir à sa belle-sœur. Cette dame pâlit, changea de visage et balbutia des mots sans liaison. Les soupçons du frère se fortifièrent de ce trouble. Il demanda qu'on fît creuser dans le lieu où il avait vu disparaître le fantôme. La veuve, que cette subite résolution épouvanta, fit un effort sur elle-même, prit une contenance ferme, se moqua de l'apparition et essaya d'apaiser les inquiétudes de son beau-frère. Elle lui représenta que s'il se vantait d'avoir eu une pareille vision, chacun se moquerait de lui et qu'il serait la risée de tout le monde. Mais tous ces discours ne purent le détourner de son dessein. Il fit creuser dans le cellier en présence de témoins. On découvrit le cadavre de son frère, à moitié corrompu. Le corps fut levé et reconnu par le juge de Quimper-Corentin. La veuve fut arrêtée avec tous les domestiques et les 3 coupables furent condamnés au feu. Tous les biens de la dame furent confisqués pour être employés en œuvres pieuses.